parole à Vincent Guillain, qui est chez lui ici, d'ailleurs, voilà, qui est l'autre de cette maison, puisqu'il est maître de conférence au Collège de France, dans la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Il est spécialiste de Stuart Mill, et sa présentation portera sur le rôle de la phrénologie dans la sociologie conscienne, le cas de l'égalité des sexes.
Merci, Monsieur Gentil. Je tiens à vous remercier pour le soutien et la reconnaissance que la Société des Amis d'Auguste Comte a bien voulu témoigner en faveur de cette journée. Et je vous remercie de votre appui. Et je vais peut-être rendre un signe à Comte, mais qui ne sera peut-être pas un signe très charitable dans la communication que je vais vous faire aujourd'hui. La célébration, par contre, des vertus positives de la physiologie phrénologique a suscité et suscite toujours des réactions partagées. D'une part, l'atterrement plus ou moins charitable de ceux qui ne comprennent pas comment Comte a pu se laisser prendre au piège de cette pseudo-science. De l'autre, l'enthousiasme plus ou moins affirmé de ceux qui lisent les prodromes d'une authentique neurophilosophie. Pourtant, au-delà des motifs méthodologiques et épistémologiques qui expliquent l'estimation généralement positive de la phrénologie par Comte, il en existe d'autres de nature politique ou, comme dirait Comte lui-même, sociologique. La physiologie phrénologique fournit en effet à l'édifice conscient la base d'une authentique théorie de la nature humaine, c'est l'expression de Comte, à partir de laquelle penser l'organisation ou la réorganisation des sociétés occidentales. Ce rôle crucial dévolu à la phrénologie n'est quant à lui que l'illustration d'une spécificité encore plus générale du système conscient, à savoir le rapport privilégié dans l'ordre de la connaissance qui unit la biologie et la sociologie. Ce rapport privilégié, mon maître Jean-François Bronstein en a encore récemment souligné l'importance dans son ouvrage sur la philosophie de la médecine d'Auguste Comte, que je vous fais passer, en insistant sur la prégnance d'un modèle biologique qui informe et qui infuse la conception conscienne du social. Pour reprendre ces termes, la sociologie de Comte penche vers la biologie. Alors, c'est sur la nature de cette inclination que j'aimerais me pencher aujourd'hui, parce qu'elle importe particulièrement à quiconque, ce qui est mon cas, s'intéresse à la cohérence de l'architectonique des sciences dans le système conscient. Alors, comme vous le savez, la classification encyclopédique des sciences chez Comte repose à la fois sur la reconnaissance d'une pluralité de sciences irréductibles les unes aux autres et sur l'idée qu'il existe entre elles des liens logiques, méthodologiques et historiques. Toute la difficulté est ici de penser à la fois la pluralité des sciences et leur nécessaire complémentarité d'un point de vue systématique, ce qui, pour la question du rapport biologie-sociologie, nous autorise d'une part à accepter l'idée qu'il peut bien y avoir un modèle biologique de la sociologie, que l'on peut par exemple établir des analogies partielles entre organismes vivants et corps social, mais d'autre part qu'il faut néanmoins refuser de rabattre la connaissance des phénomènes sociaux sur celle des phénomènes biologiques, de réduire le supérieur à l'inférieur, de sombrer dans ce que Comte appelle le matérialisme. En d'autres termes, la sociologie peut pencher vers la biologie, parce qu'il y a bien des penchants vertueux, mais la sociologie ne doit pas verser dans la biologie parce que cela serait céder à une inclination vicieuse. Or, même si Comte s'emploie bien à nous mettre en garde contre la tentation du matérialisme et ce faisant interdit, comme le souligne aussi Jean-François Bronstein, que sa sociologie puisse être considérée comme un organicisme, il n'est pourtant pas si sûr que le problème du biologisme de la sociologie conscienne soit pour autant complètement réglé. Pour bien saisir toute la difficulté du problème du rapport biologie-sociologie chez Comte, il est éclairant de considérer la manière dont il s'articule dans le cas précis de la question de l'égalité des sexes. Comme vous le savez aussi, le féminisme militant de notre Auguste phallocrate, pour reprendre le titre d'un article d'Annie Petit et de Bernadette Binceau de Vincent, célèbre les vertus altruistes des femmes pour mieux les confiner aux tâches domestiques et repose sur l'affirmation de l'infériorité intellectuelle et morale au sens de manque de capacité volitionnelle des femmes. Cette position, que Comte développe dans le cours et approfondit dans la correspondance avec John Stuart Mill, on peut la résumer à l'aide d'un argument fonctionnaliste. L'humanité est une espèce sociable qui demande à être organisée hiérarchiquement, selon ce qu'on pourrait appeler un principe de subordination, de manière à satisfaire les besoins de ses membres. Cette structure hiérarchique dépend quant à elle des capacités respectives des différents individus, leur nature, qui déterminent leur rôle et leur statut social. Or, il existe une distinction fondée sur le sexe, selon laquelle les hommes sont pourvus de traits de caractère qui les rendent aptes aux tâches intellectuelles et de direction propres à la sphère publique, tandis que les traits caractéristiques des femmes les destinent à être les auxiliaires affectifs des hommes dans la sphère privée. On obtient alors l'argument suivant. Première prémisse, de sorte à satisfaire les besoins de leurs membres, les sociétés doivent être organisées de manière hiérarchique dans tous leurs aspects, publics et privés. Deuxième prémisse, il existe des différences naturelles qui rendent les hommes aptes à commander et les femmes à obéir. Conclusion de ce syllogisme patriarcal, les sociétés devraient donc être organisées selon un modèle patriarcal. Alors, d'un point de vue formel, l'argument semble être valide. Si on accorde les prémisses, la conclusion s'ensuit. Bien sûr, la question, c'est de savoir ce qu'on peut penser des prémisses. Quant à la première, on pourrait être surpris par le fait que le principe de subordination, qui s'est révélé être un outil efficace pour maximiser le bien-être matériel au niveau de la communauté, par exemple dans la division du travail ou les entreprises coopératives humaines, soit étendu à la sphère privée. On pourrait penser qu'on devrait laisser les individus libres de choisir avec qui ils veulent s'associer et dans quels termes. Pas pour Comte, qui refuse une telle restriction du champ d'application du principe de subordination, dans la mesure où il tient pour acquis que toutes les interactions sociales doivent concourir à l'amélioration du bien-être pour la société dans son ensemble. Le slogan positiviste « Vivre pour autrui » exige des individus que leur altruisme s'étende au-delà du cercle de leurs parents. Donc, puisque l'argument le requiert, on peut accepter cette première prémisse qui veut que le principe de subordination s'applique à l'ensemble des interactions sociales. Il apparaît alors évident que la faisabilité du projet d'organisation sociale de Comte dépend de l'existence et de la robustesse d'un savoir portant sur les capacités et les aptitudes humaines qui lui permettrait de légitimer empiriquement sa prémisse factuelle, les hommes sont aptes à commander et les femmes à obéir. Par conséquent, si l'on veut refuter l'argument patriarcal de Comte, peut-être est-il plus avisé de laisser de côté la première prémisse, qui n'est pas entièrement contre-intuitive et qui a pour elle une certaine base empirique, la division du travail selon un mode hiérarchique, ça produit des résultats patents, mais on devrait prendre la seconde prémisse comme cible principale. Alors, pour résumer, ce dont Comte a besoin pour que son argument soit valable, c'est d'une prémisse qui établisse que les hommes sont pourvus de traits de caractère spécifiques qui les rendent aptes à des tâches de commandement et de supervision, et dont les femmes sont dépourvues ou qu'elles seraient incapables de développer au niveau requis. Cette prémisse, Comte pense, comme il l'expose dans le cours et le répète à Mill dans leur correspondance, qu'on peut la substancier, de deux manières différentes et indépendantes, j'y tiens, c'est important cette indépendance, soit en se fondant sur des arguments biologiques, soit à l'aide d'un double argument sociologique. Ce que je voudrais vous montrer, c'est la manière dont la biologie, en particulier la phrénologie, œuvre de manière souterraine au cœur même de l'argument sociologique de Comte, en faveur de l'assujettissement des femmes, et les conséquences potentielles de cette contamination biologique sur la thèse, d'un Comte défenseur de la pluralité des sciences et fondateur d'une science sociologique irréductible aux autres sciences. S'il est bien un aspect de la pensée de Comte que la lecture de la correspondance avec Mill éclaire, c'est la nature et la force de son attachement à la physiologie phrénologique. Cet attachement, il apparaît clairement dans les discussions qui a lieu entre eux à propos de la question de l'égalité des sexes. Pour résumer, Mill s'oppose au modèle patriarcal développé par Comte dans le cours parce qu'il estime que l'infériorité intellectuelle et morale des femmes n'est pas démontrée. À cela, Comte répond par deux types d'arguments. D'une part, il estime que la biologie, et en particulier la phrénologie, fournit des preuves suffisantes de l'infériorité des femmes, ce à quoi objecte Mill, en récusant que les hypothèses phrénologiques, en général, aient jamais été corroborées dans leurs détails, et en expliquant qu'une analyse scientifique des capacités et aptitudes mentales requiert nécessairement la prise en compte de données psychologiques et environnementales en plus des données physiologiques. D'autre part, Comte propose aussi un double argument sociologique qu'il s'accorde avec Mill pour tenir logiquement indépendant de l'argument biologique. C'est ce que Mill, par exemple, veut signifier quand il déclare dans la correspondance « écarter les considérations anatomiques » dans la mesure où Comte lui-même pense, et je cite Mill, « qu'indépendamment de ces considérations, une analyse exacte de l'expérience générale tant usuelle qu'historique suffit pour établir ses conclusions. » Alors, la première version de l'argument conscient, ce que j'appellerais l'argument statique, reprend l'argument fonctionnaliste que j'ai énoncé précédemment en y supprimant toute référence à la cause ou à l'origine des traits de caractère féminin. On obtient donc ce qu'on pourrait appeler un argument faible en faveur de l'assujettissement, dans la mesure où il repose seulement sur l'évaluation des capacités mentales des femmes dans les conditions sociales contemporaines de Comte et de Mill, voilà pourquoi c'est un argument statique, et qui ne légitime donc l'assujettissement que pour ces conditions sociales, parce qu'on ne peut pas présupposer qu'un changement de ces conditions ne pourrait pas provoquer une modification des capacités mentales, comme le présuppose, lui, l'argument fonctionnaliste fondé sur la biologie. Une telle modification fournit bien une base sociologique indépendante de toute référence biologique à l'argument de Comte. Donc, si on interprète maintenant les affirmations de Comte en les dissociant de toute référence à la biologie et en limitant leur portée aux conditions sociales existantes, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour Comte, je cite Comte, « l'inaptitude caractéristique des femmes à l'abstraction et à la contention, L'impossibilité presque complète d'écarter les inspirations passionnées dans les opérations rationnelles, quoique leur passion soit en général plus généreuse, doivent continuer à leur interdire indéfiniment toute haute direction des affaires humaines. Alors, conformément à sa division tripartite entre facultés intellectuelles, affectives et pratiques, Comte affirme que les femmes sont inférieures aux hommes en ce qui concerne les premières et les troisièmes. Elles ne sont ni aptes à manifester les capacités logiques et méthodiques requises en sciences, en philosophie, dans les arts ou l'industrie, pas plus qu'elles ne sont capables de diriger aucune sorte d'entreprise commerciale ou industrielle ou de commander une expédition militaire. Comte va jusqu'à soutenir que les femmes sont radicalement incapables de tout gouvernement, même domestique, mais seulement d'administration secondaire. C'est-à-dire qu'elles ne portent pas la culotte, elles ne dirigent même plus à la maison. Reste que la partie sympathique de leurs facultés affectives, qui sont responsables de leurs inclinations altruistes, et leur capacité pour l'organisation de détails étant supérieure à celle des hommes, les femmes sont à même de contrebalancer le biais égoïste et la nature abstraite typique des décisions prises par les hommes. Je cite Comte, elles sont essentiellement réservées pour la consultation et la modification, où leur position passive leur permet d'utiliser très heureusement leur sagacité et leur acuité caractéristique. Alors, cette vue d'ensemble et tout ce que Comte se sent obligé de fournir à Mill, ne faisant par là que répéter les développements sur l'égalité sexuelle déjà proposés dans la 50e leçon du cours. Alors, bien sûr, on aurait pu s'attendre à ce qu'un argument sociologique, même dans sa version statique, prenne une forme un peu plus raffinée, mais la version affaiblie de l'argument fonctionnaliste exige seulement que Comte soit capable de montrer que les capacités actuelles des femmes expliquent et justifient leurs conditions. À cet égard, les généralisations, qu'on pourrait dire grossières, invoquées par Comte, sont suffisantes si elles sont fondées et vraies. Alors, ce que Comte conclut de cette expérience est simple. En ce qui concerne les capacités pratiques des femmes, ni la direction ni l'exécution ne leur conviennent. Pour ce qui est des capacités intellectuelles, Comte déclare qu'une très insuffisante aptitude à la généralisation des rapports et à la persistance des déductions, aussi bien qu'à la prépondérance de la raison sur la passion, sont des traits caractéristiques du type féminin. Eu égard aux capacités affectives, les femmes sont destinées, outre les fonctions maternelles, à constituer spontanément les auxiliaires domestiques de toute puissance spirituelle, en appuyant par le sentiment l'influence pratique de l'intelligence pour modifier moralement le règne naturel de la force matérielle. Alors, je ne m'attarderai pas sur la manière dont Mill répond aux différentes assertions de Comte. Pour résumer, on pourrait dire qu'il essaye de montrer soit que les généralisations de Comte à propos des capacités mentales des femmes sont erronées, soit qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur émancipation. Pourtant, une remarque méthodologique de Mill mérite qu'on s'y arrête. Mill suggère en effet que le conditionnement dont les femmes sont les sujets rend l'analyse de leur capacité mentale particulièrement épineuse, dans la mesure où leur assujettissement actuel exige seulement d'elles un nombre restreint de comportements, qui est principalement celui de filles, d'épouses et de mères, et les empêche de manifester d'autres dispositions qu'elles pourraient avoir, mais que les circonstances ne sollicite pas. Grosso modo, c'est cette idée que les propriétés psychologiques sont des capacités dispositionnelles qui ne s'activent que dans certains contextes. Si vous ne sollicitez pas les capacités par un contexte, elles ne vont pas émerger. Comme les femmes sont conditionnées ou vivent dans un contexte où leurs capacités intellectuelles et mentales ne sont pas sollicitées, il n'y a aucune chance que vous sachiez si elles en ont ou pas. C'est ça l'argument de Mill. Et c'est bien cette situation qui relativise sérieusement l'insistance de Comte à tenir pour acquis que les généralisations portant sur les capacités des femmes puissent servir de fondement à son plaidoyer en faveur de leur assujettissement. Mais l'argument statique que je vous ai présenté est confronté à des difficultés bien plus graves. Premièrement, il est très probable que Comte refuserait les termes dans lesquels j'ai reformulé son argument de manière à le rendre compatible avec son plaidoyer en faveur d'une sociologie autonome. En effet, comme indiqué précédemment, la version révisée de l'argument fonctionnaliste légitime l'assujettissement en fonction des capacités mentales des femmes telles qu'elles existent ici et maintenant. On considère les femmes dans un environnement social donné et on justifie leurs conditions par les dispositions qu'elles manifestent dans cet environnement. Mais comme l'origine ou la cause de ces dispositions n'est pas précisée, on ne peut pas étendre l'argument au-delà de ce cadre temporel et spatial, car il se pourrait tout à fait, et c'est ce que pense Mill, et il a raison de le penser, qu'un environnement social différent tende à développer chez les femmes les dispositions qui leur manquaient jusqu'ici, ce qui légitimerait alors leur émancipation. Ou il se pourrait qu'un changement dans l'environnement social provoque un changement dans l'organisation de la société, et entre autres, mette fin à la discrimination à l'encontre des femmes qui se fonderait sur leurs capacités actuelles. En bref, la portée de la version faible de l'argument statique est excessivement limitée. Elle justifie l'assujettissement simplement ici et maintenant. Or, il est évident que Comte veut prouver bien plus que cela, puisqu'il dit explicitement que sa position revient à affirmer que, je cite, « l'assujettissement social des femmes sera nécessairement indéfini parce qu'il repose directement sur une infériorité naturelle que rien ne saurait détruire ». Ce dont Comte a besoin, c'est donc à la fois d'une démonstration que la capacité des femmes resteront identiques, quels que soient les changements qui pourraient se produire dans leur environnement, et une preuve que les fondements qui ont justifié l'assujettissement des femmes ne seront pas altérés par une modification de la structure organisationnelle de la société. La pérennité de l'assujettissement des femmes serait assurée uniquement si ces deux conditions sont réalisées. Mais aucune de ces deux propositions n'est déductible de la version faible de l'argument statique. Une fois le contenu exact de la position de Comte clarifié et l'incapacité de la version faible de l'argument statique à fournir ce qui lui est nécessaire, on saisit plus facilement l'attachement de Comte à la physiologie phrénologique. Parce que la phrénologie tient les capacités mentales pour innées et non modifiables au-delà de certaines limites, elle fournit à Comte la prémisse qui lui fait défaut, à savoir une prémisse qui garantit que rien ne peut modifier l'organisation mentale des femmes. Autrement dit, la position patriarcaliste de Comte ne tient pas si la version faible de l'argument statique n'est pas épaulée par des données phrénologiques. C'est ce qui explique que la phrénologie filtre dans certains développements sociologiques de Comte. Par exemple, dans la 50e leçon du cours, la première leçon qui traite ouvertement de la matière sociologique, Comte déclare ouvertement, je cite, que l'appréciation sommaire des attributs sociaux de chaque sexe doit être essentiellement rattachée aux plus nobles propriétés de notre nature cérébrale. Dans la même veine, il soutient que tout changement dans la structure de la famille, particulièrement la façon dont les femmes sont soumises à leur mari, présupposerait, je cite, une chimérique transformation de notre organisme cérébral. Alors, la difficulté avec cette ligne argumentative, en plus du fait qu'elle repose sur des assertions empiriquement très douteuses, comme Mill l'avait fait remarquer à Comte à propos de la phrénologie, est qu'elle met en évidence au moins un cas, celui de l'égalité des sexes, dans lequel Comte déroge clairement à sa défense d'une sociologie autonome. Car la phrénologie conçue, comme je cite, l'étude générale des phénomènes intellectuels et moraux, est de l'aveu même de Comte une partie de la biologie, même si c'est son appendice le plus transcendant. Par conséquent, il ne suffit pas ici de constater que l'argument statique échoue à prouver ce que Comte cherche à prouver, il faut aussi reconnaître que dans sa structure même, cet argument transgresse les principes méthodologiques édictés par Comte lui-même. Alors, à cette étape de l'argumentation, il me semble nécessaire de voir ce qu'on pourrait reprocher à mon raisonnement. Il y a une prolepse qui s'impose d'elle-même. Ma lecture de l'argument conscient en faveur d'une sociologie autonome ne serait pas recevable parce qu'elle néglige une autre composante essentielle de l'épistémologie conscienne, à savoir l'échelle encyclopédique des sciences. Comme je l'ai rappelé, Comte développe aussi une conception du rapport de dépendance de la sociologie vis-à-vis de la biologie qui interdit de comprendre la distinction entre ces deux sciences en termes de coupure nette. Alors, le détail des relations architectoniques de la sociologie avec les autres sciences est exposé dans la 49e leçon du cours. La dépendance de la sociologie vis-à-vis des sciences qui la précèdent dans la classification est conçue par Comte comme le résultat de ce qu'il appelle un dualisme fondamental entre l'humanité et son milieu. D'une part, l'étude sociologique du premier terme de cette distinction dépend de la philosophie organique, c'est-à-dire de la biologie, qui fait seule, je cite, connaître les véritables lois de la nature humaine. D'autre part, la philosophie inorganique, l'astronomie, la physique et la chimie, rencontrent des conditions extérieures d'existence de l'humanité. Comme le résume Comte, l'une de ces deux grandes sections de la philosophie naturelle détermine en sociologie l'agent du phénomène et l'autre le milieu où il se développe. Alors, Comte insiste particulièrement sur la connexion spécifique qui unit la biologie et la sociologie, l'avènement de celle-ci lui apparaissant comme ayant été directement conditionné par ce qu'il appelle l'importante révolution philosophique qui donna naissance à la physiologie cérébrale, c'est-à-dire la physiologie phrénologique de Gall. Se fondant sur ce qu'il a établi dans la 45e leçon du cours, Comte affirme que c'est par l'intermédiaire de la partie transcendante de la biologie relative à l'étude générale des phénomènes intellectuels et moraux que s'opère, je cite, la principale subordination directe de la sociologie envers la biologie. Alors, Comte va distinguer deux types de dépendance de la sociologie à l'égard de la biologie. D'une part, il existe ce qu'il nomme une dépendance primitive, qui résulte en ce que la biologie fournit le point de départ des études de statique sociale, en rendant compte de la sociabilité humaine et des diverses conditions organiques qui déterminent son caractère propre. Comte affirme donc ici que l'origine de l'existence sociale de l'homme est à rechercher dans sa nature, c'est-à-dire dans sa constitution biologique. Le second type de dépendance consiste en ce que des indications purement biologiques sont utilisées comme un, je cite, « précieux auxiliaire général et surtout un indispensable contrôle fondamental des généralisations sociologiques ». C'est ce que Comte appelle la dépendance continue. Alors, quant à la dépendance primitive, il faut bien réaliser que Comte ne se contente pas ici de reprendre la vieille théorie sociale selon laquelle les sociétés humaines sont un moyen de pallier la faiblesse physique des individus pris isolément. Ce qui l'intéresse, c'est la possibilité d'identifier les tendances innées qui pourraient expliquer la variété des relations sociales existant entre les individus. Et ce sont bien de tels traits que la phrénologie met en lumière. Si vous pensez par exemple aux écrits de Spurzheim, dont Comte estime les classifications plus courtes et rédigées beaucoup plus méthodiquement que celles de Gall. vous trouvez une liste des facultés qui correspond bien aux liens sociaux les plus prévalents. Si vous regardez par exemple, hein, vous pouvez regarder d'autres œuvres de Spurzheim, mais celle-là, elle est bien parce que Comte s'y réfère, vous regardez les observations sur la phrénologie de 1818, les penchants de l'amativité et de l'amour de la géniture rendent compte des relations hétérosexuelles et de l'existence de la famille, les sentiments de bienveillance et de vénération expliquent les relations sociales hiérarchiques, les sentiments d'amour-propre et d'amour de l'approbation rendent compte des relations de compétition. Alors, ces différentes facultés n'expliquent pas seulement l'existence de la société comme le milieu dans lequel les besoins humains seraient satisfaits, elles expliquent aussi les structures sociales les plus fondamentales. Un autre apport de la physiologie phrénologique pour Comte, c'est que son insistance sur les facultés affectives contribue à réfuter les conceptions anthropologiques proto-utilitaristes d'Helvétius et des idéologues, celles d'un homme compris comme un être essentiellement raisonneur, exécutant continuellement à son insu une multitude de calculs imperceptibles, et leur promotion de l'égoïsme érigé en principe nécessairement unique de toute nature morale proprement dite. Au contraire, la phrénologie donne sa substance à une image de l'homme conçue comme un être dont les fins sont déterminées par ses affections, ses penchants et ses passions, qui sont atteintes avec l'aide de ses facultés intellectuelles et dont la nature morale compense l'égoïsme par la sympathie. Mais je pense que c'est ce dont va vous parler Thomas après dans son livre que je peux vous faire passer, qui est l'invention de l'altruisme. Je vous conseille la lecture. Finalement, la phrénologie rend compte de la sociabilité humaine en un dernier sens. Alors ça, c'est mon interprétation. Elle est sujette à questionnement. Au sein du cadre explicatif adopté par Comte pour sa statique sociale, la connaissance des capacités respectives des différents individus, la nature de leurs facultés prédominantes, explique leur rôle et leur statut social. Idéalement, dans une société organisée sur la base des capacités naturelles, chacun se verrait assigner le rôle qui convient à son organisation biologique particulière. En d'autres termes, la division du travail dans la société reflèterait la pluralité des organes dans le cerveau. La naturalisation phrénologique est ici complète et vient étayer les spéculations sociologiques de Comte. Elle rend compte de l'existence des sociétés humaines et identifie la base spontanée à partir de laquelle les relations sociales se développent. Mais Comte met aussi en garde les sociologues à venir des dangers qu'une dépendance exagérée vis-à-vis de la biologie pourrait faire courir à la sociologie. Car s'il est vrai que la théorie de la nature humaine nous renseigne sur les facultés innées, requises et rendues possibles par l'existence sociale de l'homme, il est aussi vrai qu'elle ne détermine pas à elle seule l'organisation sociale dans son détail. C'est seulement au travers de la considération de l'expérience historique qu'on peut espérer appréhender la nature des lois propres aux phénomènes sociaux. Par exemple, le fait que différentes sections de l'humanité aient pu être exposées à différentes conditions climatiques et géographiques, ce que Comte appellerait des milieux, ou à différentes situations historiques, des guerres, des épidémies ou des invasions, pourrait expliquer qu'elles aient adopté différentes formes d'organisation sociale qui supposent quant à elles le développement de certaines facultés et pas d'autres. La phrénologie est typiquement insensible à cet aspect des faits sociaux parce qu'elle se contente d'étudier l'esprit humain statiquement, alors que la sociologie est avant tout une science historique, développementale des phénomènes humains. Comme Comte le remarque, cette ignorance du facteur historique conduit à de sérieuses erreurs en nous disposant à regarder comme inhérente à la nature fondamentale de l'homme et par suite comme indestructible des modifications sociales réellement passagères propres à un état déterminé du développement humain. Gall lui-même a été la victime d'une telle erreur quand il a tenté de démontrer l'immobilité prétendue des tendances militaires de l'humanité, malgré l'ensemble des témoignages historiques qui indiquent, au contraire, le décroissement graduel de l'esprit guerrier. Alors, néanmoins, Comte soutient que même si la dimension historique du développement social interdit de réaliser des inférences sociologiques à partir de la version cérébrale de la théorie de la nature humaine, phrénologique, cette dernière reste un outil précieux pour contrôler l'exactitude des hypothèses sociologiques. Comte affirme en effet qu'une explication sociologique ne doit être acceptée que si elle est compatible avec ce qu'il appelle les lois connues de la nature humaine, c'est-à-dire avec l'image de l'esprit humain et de ses facultés véhiculées par la phrénologie. Tel est ce que Comte appelle le mode continu de dépendance de la sociologie à l'égard de la biologie. Donc, une fois spécifiés ces deux modes de dépendance, Comte conclut qu'il y a, et une fois qu'on est conscient des limites qu'on doit imposer à l'influence biologique sur la sociologie, il n'y a pas de risque pour l'indépendance de la sociologie. Donc, tout bien considéré, on est tenté de reconnaître que la conception de Comte, que Comte se fait d'une sociologie indépendante, semble acceptable. Si tout ce que la biologie fait est de donner la liste des facultés humaines présupposées par l'existence sociale, en circonscrivant par là même les formes possibles d'organisation sociale, mais sans jamais légitimer aucune inférence relativement aux formes qui existent effectivement, il s'ensuit que seule l'analyse historique peut déterminer les lois de développement des phénomènes sociaux. Pour Comte, il est donc parfaitement légitime et même nécessaire de recourir à l'usage des données biologiques en sociologie, car cet usage ne menacerait pas l'autonomie de la sociologie. Par conséquent, la contradiction que je souligne entre les déclarations méthodologiques générales de Comte et sa pratique sociologique effective résulterait simplement d'une interprétation erronée des écrits de Comte. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est justement parce que mon interprétation reste fidèle à la conception de Comte, que Comte se fait des relations entre biologie et sociologie, qu'elle permet de montrer comment la pratique sociologique de Comte trahit sa méthodologie. Bien sûr, Comte souligne que même si la phrénologie nous renseigne sur les capacités mentales qui rendent l'existence sociale possible, elle ne suffit pas à elle seule à déterminer en détail l'organisation sociale. Bien sûr, Comte insiste sur la nécessaire prise en compte de l'expérience de l'humanité au cours de l'histoire pour la compréhension des lois des phénomènes sociologiques. Bien sûr, il prend la peine de rappeler que négliger la dimension historique des phénomènes sociaux revient à considérer comme inhérente à la nature fondamentale de l'homme des modifications sociales réellement passagères, à l'instar de l'idée de Gall, d'une immutabilité des tendances guerrières de l'humanité. Bien sûr, Comte met en garde contre la vicieuse prépondérance des considérations biologiques et l'irrationnel dédain des considérations historiques, parce qu'elles conduisent à une compréhension erronée de la véritable évolution sociale et attribuées de manière infondée une fixité chimérique, je cite Comte, à des dispositions essentiellement variables. Mais n'est-ce pas là exactement le sophisme dont Comte se rend responsable dans le cas de l'égalité des sexes ? Quand il affirme qu'il est possible de, et je le cite, démontrer immédiatement les principales bases de la sociologie statique, et l'inégalité c'est une des bases de la sociologie statique, Comte suggère en effet que l'assujettissement des femmes est une question close, parce qu'il pense que la phrénologie à elle seule est prétendument capable de prouver que les capacités mentales des femmes ne changeront pas, se rendant par là même coupable de la même sorte de vicieuse prépondérance des considérations biologiques qu'il reprochait à Gall. Ainsi donc, dans le cas de l'assujettissement des femmes, Comte transgresse les limites qu'il impose lui-même à l'utilisation de la phrénologie dans le cadre de la statique sociale, en tentant de résoudre un problème socio-historique avec les seules ressources offertes par la biologie. Comte présuppose trop facilement que les capacités mentales sont innées et que par conséquent elles ne changeront pas, alors que Mill, dans la correspondance, lui fait remarquer avec raison qu'une telle position demeure infondée tant aussi longtemps que l'hypothèse d'une explication environnementale des traits a été écartée. Ce qui est particulièrement étonnant ici, c'est la décision de Comte de refuser de considérer comme recevable l'idée millienne d'une explication des phénomènes mentaux en termes de composition de causes, c'est-à-dire comme le résultat de la conjonction d'une pluralité de causes, biologiques ou environnementales, alors même que cette idée est tout à fait compatible avec le cadre conscient. Comme Mill le soulignait aussi, Comte a raison d'affirmer que les explications sociologiques doivent se référer d'une manière ou d'une autre aux propriétés biologiques qui caractérisent les êtres humains. Mais son usage propre des données biologiques n'empêche pas moins, d'une part parce que les tests phrénologiques n'étaient pas corroborés, d'autre part parce que la biologie prenait le pas sur la sociologie et ne laissait aucune place aux autres facteurs dans les explications sociologiques. Alors pour finir, je vais vous montrer comment le recours à la phrénologie fonctionne dans le cadre de la version dynamique de l'argument sociologique en faveur de l'assujettissement des femmes, c'est-à-dire d'un argument historique. Comte, vous vous en souvenez, est à la recherche de données qui étayent deux prémices. D'une part, la fixité des capacités mentales féminines, et en particulier des capacités intellectuelles. D'autre part, la pérennité de la structure sociale qui justifie leur subordination. L'idée, c'est que l'assujettissement, il est bon que dans un certain milieu social où certaines capacités vous justifient ou légitiment le commandement et l'autre l'obéissance. Si vous changez le milieu social, alors le fondement de l'assujettissement change. Et il est vrai qu'on trouve en effet, à la fois dans le cours et dans la correspondance avec Mill, des éléments qui viennent à l'appui de ces deux thèses. D'une part, et là je passe vite sur ça, d'une part, Comte offre un panorama historique de l'évolution des relations entre les sexes, qui selon lui indique sans ambiguïté que l'ordre patriarcal, même s'il s'est modifié au cours de l'évolution historique, est toujours demeuré un des éléments essentiels de l'organisation sociale, okay, c'est un des principes de la statique sociale, mais mieux pour Comte, le développement graduel de l'ordre social a inclus de façon de plus en plus sensible la subordination d'un sexe à l'autre, et rien n'indique que cela est sur le point de changer. D'autre part, Comte offre aussi un argument dynamique en faveur de l'inaltérabilité des capacités mentales des femmes. Conformément à sa théorie du progrès, Comte reconnaît que l'histoire des sociétés occidentales se caractérise par un processus graduel d'émancipation qui a conduit la majorité des hommes d'un état d'esclavage à un état de servage, puis à un état de liberté civile et d'indépendance privée. Alors, le succès de ce mouvement d'émancipation a dépendu quant à lui du fait que l'inégalité qui servait de fondement à ce type d'assujettissement n'était pas naturelle, c'est-à-dire que les hommes ont manifesté les dispositions capables d'y mettre un terme. Mais poursuit Comte, qu'est-ce qui pourrait expliquer que les femmes, qui ont eu autant de temps que les hommes pour s'émanciper, n'y aient pas réussi ? Pourquoi l'analogie entre l'émancipation des éléments mâles les plus bas de la société et l'émancipation féminine ne fonctionne-t-elle pas ? Comte n'a aucun doute sur la cause d'une telle différence. L'assujettissement social des femmes sera nécessairement indéfini parce qu'il repose directement sur une infériorité naturelle que rien ne saurait détruire. Comte tient donc le fait que les femmes n'aient pas pu se libérer par elles-mêmes de la domination masculine pour une preuve qu'elles sont dépourvues des capacités mentales indispensables à une telle émancipation. En tout cas, il ne voit pas, je le cite, comment expliquer autrement la constante subalternité sociale du sexe féminin. Avec cette double démonstration, Comte semble convaincu qu'il a réuni tous les éléments nécessaires à son plaidoyer patriarcal, à la fois la preuve de la nécessaire infériorité intellectuelle des femmes, et la preuve que la structure sociale qui justifie leur subordination ne changera pas. Alors, je ne vais pas revenir sur la façon dont Mill réfute en détail chacune des deux thèses de Comte. Il y a une très belle analyse de Mill sur ce que c'est que d'être un esclave et sur l'histoire de l'esclavage, où il explique qu'en fait, pas tous les esclaves n'ont été émancipés. Si vous êtes un serf, vous avez été émancipé parce qu'on vous a donné les moyens de votre émancipation en vous donnant la charge d'une propriété. Si vous êtes un pur esclave, ce que pour Mill les femmes sont, même dans la société victorienne, comme vous n'avez aucune latitude d'action, vous ne pouvez pas développer de capacités. L'environnement empêche la manifestation de ces capacités. Alors, ce qui est plus intéressant pour nous ici, c'est la manière dont la phrénologie et plus largement la biologie vient soutenir le raisonnement de Comte. Et ce soutien, il transparaît d'abord clairement dans ce que Comte nomme le mode continu de dépendance de la sociologie à l'égard de la physiologie phrénologique. Comte affirme que la théorie de la nature humaine est un indispensable moyen général de vérification continue des généralisations historiques, dans la mesure où elle établit les diverses dispositions mentales existantes chez les humains, ainsi que les limites de leur variabilité, et opère comme un contrôle ou un crible théorique vis-à-vis des explications sociologiques. Une explication sociologique qui postulerait l'existence d'une disposition mentale non reconnue par la théorie de la nature humaine, ou qui supposerait un développement de cette disposition au-delà de ce qui a été attesté par la théorie de la nature humaine, devrait être rejetée. Or, ce qui convainc Comte que son argument sociologique dynamique fonctionne, et il le dit explicitement, c'est sa compatibilité avec la doctrine phrénologique. Comme il l'affirme dans la 48e leçon du cours, c'est dans cette exacte harmonie continue entre les conclusions directes de l'analyse historique et les notions préalables de la théorie biologique de l'homme que devra surtout consister la principale force scientifique des démonstrations sociologiques. Mais, et c'est là tout le problème, on en vient alors à réaliser que cette dépendance continue de la sociologie à l'égard de la biologie empêche une évaluation objective de l'argument dynamique en faveur de l'assujettissement des femmes. Dans la mesure où la phrénologie postule l'inéité des dispositions mentales et leur fixité relative, l'invariable, c'est ce que Comte appelle l'invariabilité nécessaire de l'organisme humain. L'argument pose dogmatiquement que les capacités mentales des femmes sont inaltérables. Et ce qu'on entend par là, la vraie question, celle que Mill pose, celle de savoir si ces capacités sont vraiment inaltérables ou pas. C'est la première manière dont, dans le cadre de l'argument dynamique, Comte biologise la sociologie, en utilisant la phrénologie comme un crible théorique ou comme un verrou théorique sur les explications sociologiques. Mais il est une seconde manière plus directe dont Comte biologise la sociologie, notamment dans sa partie dynamique. Comme certains commentateurs l'ont remarqué, les conceptions historiques de Comte sont profondément influencées par un schéma biologique inspiré par l'anatomie comparée héritée de Meckel, de Geoffroy Saint-Hilaire et de Serre, et par une vision préformationniste de l'embryologie. Tous ces éléments fusionnent dans une conception développementale de l'histoire, celle d'un déploiement régulier des dispositions humaines au cours d'un processus qui peut être décrit à l'aide de lois historiques. Pour Comte, je cite, l'humanité se développe sans cesse par le cours graduel de sa civilisation, surtout quant aux plus éminentes facultés de notre nature, sous les divers rapports physiques, moraux, intellectuels et finalement politiques, c'est-à-dire que ces facultés, existantes mais comparativement engourdies d'abord, prennent peu à peu, par un exercice de plus en plus étendu et régulier, un essor de plus en plus complet dans les limites générales qu'impose l'organisme fondamental de l'homme. Alors, dans ce cadre, aucune disposition nouvelle ne peut apparaître au cours de l'histoire parce que l'ensemble des capacités mentales est fixé à l'origine du processus, tout comme dans le cadre préformationniste, toutes les caractéristiques d'un être vivant sont déjà présentes dans le germe à partir duquel il se développe. Ce qui se traduit pour Comte dans le fait que l'histoire de l'humanité est, je cite, le simple essor spontané graduellement secondé par une culture convenable des facultés fondamentales toujours préexistantes qui constituent l'ensemble de notre nature sans aucune introduction quelconque de facultés nouvelles. C'est la clause importante. Or, comme Dominique Guillot le souligne, Comte ne considère pas cette loi de développement comme simplement une transposition analogique des principes qui commandent la croissance embryonnaire, mais il soutient qu'elle correspond à un processus organique réel qui se déroule dans chaque individu. S'appuyant sur l'idée de Gall selon laquelle il existe un nombre défini d'organes cérébraux dont le volume peut varier et qui sont responsables d'aptitudes spécifiques, Comte tient que la phrénologie corrobore matériellement ses conjectures sur l'évolution de l'humanité en montrant que la suite des étapes par lesquelles passent les conceptions humaines est universelle et inflexible parce qu'elle a pour substrat un véritable développement organique, celui du cerveau. Une des conséquences de cette conception préformationniste de l'évolution mentale est qu'aucune place n'est laissée à une possible modification du nombre ou de la nature des dispositions mentales et qu'elle pousse à conclure que si une disposition n'est pas apparue dans un certain type d'individu au cours de l'histoire, c'est parce qu'elle ne fait pas partie de leur dotation mentale. Dans le cas des femmes, il est probable que Comte tient leur assujettissement pour un fait social pérenne parce que, dans le cadre développemental qu'il fait sien, la persistance historique de la domination masculine prouve sa nécessité. Car si les femmes n'ont pas été capables de rivaliser intellectuellement et pratiquement avec les hommes, c'est parce qu'elles avaient déjà atteint la pleine mesure du développement de leur intelligence et de leur développement et de leur volonté. Bien évidemment, cette conclusion n'est valable que si l'innéité des dispositions mentales a été prouvée. C'est peut-être une conséquence du dogmatisme de Comte qu'il n'ait pas été capable de reconnaître ce point de logique dont il avait pourtant essayé de toutes ses forces de le convaincre. Alors pour conclure, j'espère vous avoir montré que ni l'argument statique ni son équivalent dynamique ne fournissent ce que Comte en attendait, à savoir une preuve convaincante que l'assujettissement des femmes demeurerait une caractéristique centrale des relations sociales entre les sexes, donc ça c'est bien. Je crois qu'une conclusion exégétique intéressante peut être tirée de cette analyse des arguments de Comte. Il est patent que la position de Comte à l'égard de l'égalité des sexes contredit clairement son plaidoyer en faveur d'une science autonome des phénomènes sociaux. En effet, Comte ne se contente pas de fonder son raisonnement en faveur de la domination masculine sur des arguments biologiques, en l'occurrence phrénologiques, mais ses arguments sociologiques, eux aussi, sont indissociables de certains présupposés biologiques. La littérature comtienne récente insiste sur le fait que toute analyse pertinente de l'œuvre de Comte doit prendre au sérieux son ambition systématique. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, en vous montrant que si par systématique on entend, entre autres, cohérent, il est au moins un aspect de la pensée de Comte qui révèle l'incohérence de sa philosophie. Je vous remercie.
Merci, oui, c'était tout à fait intéressant.
Le trait de caractère n'a pas été écarté.